Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Mes films essayent de tenir compte de toute cette espèce d'acquis culturel du cinéma français. Tout un cinéma, pour moi, typiquement français, qui va de Renoir à Becker, justement de Prévert à Grémillon, etc. Et qui se prolonge d'une manière plus jusqu'à Sautet maintenant.
Cette voix, vous la reconnaissez sûrement, c'est celle de Bertrand Tavernier, le cinéaste français mort le 25 mars dernier. À l'âge de 79 ans, il laisse derrière lui une filmographie conséquente, entamée à partir de 1974 et qui s'est achevée en 2016 avec Voyage à travers le cinéma français, dont tu vas nous parler, Guillaume.
Oui, au cours de ces 3 heures et quart quand même de voyage à travers à peu près 50 ans de cinéma français.
Pour rendre hommage au réalisateur et fin connaisseur du cinéma, nous jouerons un blind test, alors version longue. Ce ne seront pas 5 extraits de films à écouter, mais 10 dont il faudra trouver le titre. Alors toi, parmi les films, il fallait choisir en fait un film de Bertrand Tavernier. Tu en as choisi, hein. C'est lequel, Manu?
Alors, je n'ai pas fait très original, hein. J'ai choisi Coup de torchon, qui est sans doute mon préféré, même si j'aime aussi Que la fête commence et Autour de minuit.
Et puis Marine, qui n'est toujours pas avec nous, mais qui fait quand même le jeu bien de l'émission en chroniquant à distance, a elle choisi La princesse de Montpensier. Mais nous commençons cette émission spéciale Tavernier avec Coup de torchon et on nous emmène à l'aube de la Seconde Guerre mondiale en Afrique avec Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Marielle, Eddy Mitchell et Guy Marchand.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi?
Ah, monsieur Van Der Broek, toujours le premier, hein?
Bah, je vois que le couvreur a toujours pas réparé le toit. Vous devriez aller le chercher.
Mais c'est pas le travail de la police, monsieur Van Der Broek.
Alors, en amont, il existe un roman extraordinaire, noir, tranchant, drôle, d'une modernité incroyable. Il s'agit de 1275 âmes, traduction en français, ou 1280 en anglais, soit 5 âmes de perdu en traversant l'Atlantique. Allez savoir pourquoi. Alors Jim Thompson, hein, qui est donc l'auteur du roman, est un immense écrivain qui est un peu au polar, on va dire, ce que William Faulkner est à la littérature américaine classique. Il pratique une langue complexe et fascinante, insufflant des niveaux de lecture variables, ce qui peut faire regretter, en l'occurrence, de ne pas être anglophone et de compter uniquement sur la qualité des traductions. Alors la notoriété de Jim Thompson, elle s'est imposée grâce au cinéma, hein, qui s'y intéressa tardivement. On peut citer parmi les films les plus connus adaptés de ses ouvrages, Guet-apens de Sam Peckinpah, Série noire d'Alain Corneau, Les arnaqueurs de Stephen Frears ou encore le plus récent en fait, The Killer Inside Me de Michael Winterbottom. Alors Stanley Kubrick avait fait aussi appel à lui pour écrire les dialogues de l'ultime razzia et il a aussi travaillé sur le scénario de Spartacus, ce qui peut paraître plus surprenant, hein. Alors de prime abord, hein, le cinéma du regretté Bertrand Tavernier, s'inscrivant dans une certaine qualité française, paraît assez éloigné de l'univers du romancier américain, poisseux et désespéré, d'une misanthropie assez unique. L'humanisme naturel de Tavernier, hein, aussi bien dans ses prises de position que dans son cinéma, peut sembler toujours, hein, en voyant les films, en contradiction avec cette folie destructrice qui anime les anti-héros chers à Thompson. Mais une dimension un peu sombre et mal élevée se dégageait déjà du Juge et l'Assassin, cinéaste finalement assez intuitif, moins académique que prévu. Bertrand Tavernier a eu une idée finalement de génie après avoir relu Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors le récit de 1275 âmes situé dans le sud des États-Unis à la fin du 19e, pour plus de crédibilité, a été transposé en pleine Afrique coloniale dans les années 30, enfin à la fin des années 30, en 38 exactement. Alors ce déplacement géographique et temporel s'avère bénéfique sur tous les plans, permettant au scénariste, hein, Jean Orange, fidèle complice du cinéaste depuis L'horloger de Saint-Paul, de truffer le film de dialogues truculents, pointant le racisme ordinaire de l'homme blanc avec un humour ravageur, ce qui le rapproche finalement assez de l'écrivain américain.
Viens là ! Je fais éclater la tête !
Ah non, l'embêtant, c'est que sans vous en douter, vous êtes en train d'enfreindre la loi, mes amis, là. Vous manquez de respect à des morts.
C'est des nègres. On les a foutus à l'eau comme des chiens crevés.
Ah non ! On les a confiés à la rivière. Après une cérémonie qui est une sorte d'enterrement. Quoique le mot soit impropre. Et vous, vous commettez une violation de sépulture.
Et ça va chercher dans les combien, la violation de machin là.
Tu vois, Lionel, je serais bien curieux de savoir combien peut coûter un Macavé, là, qu'on paye 1 franc par jour de son vivant.
Disons 100 francs, mais je ferme les yeux pour 50.
Le shérif Corret devient alors Lucien Cordier, pitoyable et inoffensif représentant de la loi, constamment humilié par son entourage. À force d'être la risée de ses proches, hein, y compris des membres de sa famille, il va basculer de l'autre côté, organiser sa vengeance de manière minutieuse et très réfléchie. Il est même d'ailleurs ridiculisé par son beau-frère, Nono, qui se tape sa femme derrière son dos, enfin, à peine derrière son dos. Hein. Cordier est un pauvre type qui sait pertinemment qu'il est un pauvre type et ne cherche aucune justification à ses actes. Décision de nettoyer la merde, comme il le dit à un moment, n'a rien de désespéré. Il ne décompense pas, sachant qu'il ne vaut pas mieux que les tristes figures qu'il doit éliminer. Sa prise de conscience est à la fois son salut et sa condamnation. Il est déjà mort, triste clown qui doit accomplir son programme de nettoyage. Au fond, son beauf, sa femme, sa maîtresse, ses collègues racistes et autosatisfaits méritent amplement leur sort. Seul, finalement, l'institutrice, symbole un peu appuyé d'une forme de pureté inaccessible, mérite le respect à ses yeux. Il en tombe amoureux, mais ne cherche pas à la séduire, conscient qu'il ne la mérite pas.
Elle est mignonne, la petite maîtresse d'école.
Tu la connais, toi ?
Ben non, mais je l'ai vue l'autre soir, sur l'écran de cinéma en ombre chinoise. Elle était mignonne en ombre chinoise. Et toi, t'étais beau en ombre chinoise. Vous étiez bien tous les deux.
Tu dis pas de bêtises, Rose, c'est pas du tout ce genre de femme.
Ah bon, tu veux dire qu'elle est trop bien pour toi ? Tandis que toi, t'es tout ce que je pourrais avoir de mieux.
Écoute...
Ah, ben Lucien, c'est pas rien de t'avoir. Un homme qui tue votre mari par amour pour vous.
Non, Rose, j'ai débarrassé la terre d'un salopard. Et comme ce salopard était ton mari, je t'ai débarrassé de lui par la même occasion.
Ouais, mais des salopards, il y en a beaucoup par ici.
Il y en aura de moins en moins. Fallait bien commencer par quelqu'un.
Dans le corpus des films de vigilantes français, les films de vengeance, s'il rappelle par moments Le Vieux Fusil, de par son thème et la présence impressionnante de Philippe Noiret, il en est aussi l'antithèse. Aucune justification de l'autojustice ne transparaît, aucune empathie ne vient à la rescousse de ce flic veul et soumis qui exécute sa basse besogne avec lassitude, sans jamais paraître soulagé. Alors très bien servi par des dialogues drôles et incisifs, les comédiens sont tous remarquables, grâce à une direction d'acteurs au cordeau, incarnant chacun à leur manière une facette peu reluisante de l'humanité. Alors de Jean-Pierre Marielle en insupportable grande gueule à Guy Marchand, beauf, irrécupérable et vicieux, en passant par Isabelle Huppert qui était déjà formidable. Alors sans oublier un Eddie Mitchell d'ailleurs plus que crédible en neuneu de service, une qualité que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des films de Tavernier, hein, là où l'auteur de Autour de minuit surprend en revanche réside dans sa mise en scène qui épouse intelligemment le propos. La mobilité de la caméra entre travelling assez lent et épuré et flottement volontaire suggère à merveille l'état second dans lequel évolue Cordier. Alors, euphorique et tragique, un coup de torchon est peut-être, à mon sens, le meilleur film de son auteur. Hein, un film noir aux antipodes du genre sur le plan formel, affichant une photographie très solaire, hein, tournage d'ailleurs constamment en plein jour par de fortes chaleurs, et un rythme nonchalant, parfois léger, qui prêterait davantage à une comédie. Alors, ce qu'il est aussi hein, dans sa dimension de fable satirique, il y a aussi un penchant évident pour le décalage et l'onirisme qui embarque le film parfois à la lisière du fantastique, voire du surréalisme, au-delà du simple jeu de massacre fustigeant la bêtise humaine à travers le colonialisme.
Mais je dis pas que t'es tort, mais je dis pas que t'as raison non plus.
C'était donc le premier film de Bertrand Tavernier dont on va vous parler dans cette émission, qui est consacrée donc au réalisateur français. Et on va parler de son dernier film, c'est un documentaire, c'est Voyage à travers le cinéma français.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Si la carrière de metteur en scène de Bertrand Tavernier fait toujours débat, alors pour ma part, j'avoue que j'extrais à l'horloger de Saint-Paul, le juge l'assassin, coup de torchon, la passion battrice et je trouve laisser passer assez intéressant. Il fait à peu près l'unanimité en ce qui concerne son statut de passeur cinématographique et tout ce qu'il a entrepris comme action pour promouvoir ou défendre le cinéma. On a en mémoire hein, ses prises de position dès sa jeunesse hein, et les années 60 pour défendre d'immenses réalisateurs comme Michael Powell, qui se voyait étrillé par la critique à l'occasion de la sortie du Voyeur, hein, l'équivalent anglais au niveau du choc cinématographique de Psychose d'Alfred Hitchcock. On connaît aussi ses nombreuses interventions hein, sur le cinéma américain et les innombrables vidéos qui font office de bonus sur les éditions DVD Blu-ray de Western. Donc c'est acquis, hein, lorsqu'il parle de cinéma, l'homme est passionnant et passionné. Mais ici, il va être question, comme son nom l'indique, de la production hexagonale. Car Tavernier décide en 2016 de marquer un grand coup avec Gaumont-Pathé et de consacrer pas moins de 3h15 à un documentaire proposant de revenir sur les noms plus ou moins retenus par l'histoire du cinéma français. Son nom, ben, tout simplement, Voyage à travers le cinéma français. Accompagné par une jolie musique de Bruno Coulet, Bertrand Tavernier se met en scène et va nous accompagner tout au long de ce périple qui commence en 1930 pour s'arrêter aux années 70. Alors, il a bien évidemment une sélection effectuée dans ce processus de mémoire, vu qu'il est impossible de rendre hommage à tout le monde en si peu de temps. Et d'ailleurs, le film sera suivi quelques années après par une série qui complétera le panoramique tricolore. Mais la réussite de l'entreprise est due au fait que Tavernier a décidé de mettre en avant des réalisateurs moins reconnus du grand public, comme Edmond Gréville, et qu'entre deux Jean Renoir ou Marcel Carné, il n'hésitera pas à citer les plus populaires dans leur genre de film, Jean Sacha, pour montrer que le cinéma, c'est tout cela à la fois. Alors, pour citer Tavernier lui-même, ce travail de citoyen et d'espion, d'explorateur et de peintre, de chroniqueur et d'aventurier, ce film donc, est un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans ma vie. Alors, certains esprits chagrins et peu positifs ont critiqué ce voyage à travers le cinéma français comme étant une ressucée peu originale des documentaires de Martin Scorsese, comme ses voyages à travers le cinéma américain et italien. Ils seront bien mariés de prendre connaissance du très bel hommage que Scorsese vient justement de faire à son collègue cinéphile, preuve que la limite de la langue du cinéma n'a jamais été une frontière physique. Et ce voyage vous invite à bannir toutes celles qu'il reste.
Donc, nous parlions de voyage à travers le cinéma français, et maintenant le voyage qu'on vous propose, eh bien, c'est celui à travers la filmographie de Bertrand Tavernier, avec la première partie du blind test qui lui est consacrée maintenant.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
On vous fait écouter 5 extraits et puis bien, il faut deviner les titres des films qui se cachent derrière ces extraits. Et on joue ici dans le studio de Cinérama.
On jette le prétendant avec une flotte sur la côte d'Angleterre, on met la Prusse, la Suède et la Russie aux prises avec la Hollande, on donne la Sardaigne au duc de Savoie comme accueil au pape et on couronne Philippe V, roi de la moitié du monde. Voilà.
L'opération est d'envergure.
Ah oui.
Et les Bretons dans tout ça?
Les Bretons, ils se foutent en République.
Oh, putain de phoque! Oh, c'est pour qu'ils aient une grande à tous! Macagundev, Macagundev! Qui n'est pute de bide! Antin Prom!
En quelle langue jure-t-elle?
Ah, mais je l'ignore complètement.
Extrêmement drôle.
C'est que la fête commence.
C'est un film sorti en 1975 avec Philippe Noiret, Jean Rochefort et Jean-Pierre Marliel qu'on entend ici. À la mort de Louis XIV, le neveu de ce dernier, le duc Philippe d'Orléans, Philippe Noiret assure la régence jusqu'à la majorité de Louis XV. Toutefois, eh bien, le duc est un homme des plus débauchés qui se laisse influencer par les mauvais conseils de l'abbé Dubois, Jean Rochefort, mené par le marquis de Pontcallec, donc Jean-Pierre Marielle, eh bien, une rébellion bretonne se prépare pour renverser le régent. Au niveau des entrées, ce sont 1,1 million de spectateurs qui sont allés en salle voir ce film. Et puis, bien, il a fait une radia sur les Césars. César du meilleur acteur dans un second rôle pour Jean Rochefort. César du meilleur scénario original pour Bertrand Tavernier et Jean Ranche. César du meilleur réalisateur pour Bertrand Tavernier. Et puis aussi le meilleur décor pendant qu'on y est. Deuxième extrait de ce blind test spécial Tavernier.
Alors moi j'ai décidé, je vais fonder la TAPMO.
Mais ils fondent un truc toutes les semaines.
La TAPMO, l'association des téléspectateurs amis de la peine de mort. C'est gentil, non? Et alors, un seul but, hein, que les exécutions capitales soient télévisées. Mais ça passerait juste avant Guy Lux.
Ah oui, pour tout. Toute la famille.
Des chansons pour toute la petite famille. Sois là. Merci, patron.
C'est l'horloger de Saint-Paul.
Oui. Le film s'inspire du roman de Georges Simenon, L'horloger d'Everton, dont l'action se déroule aux États-Unis. Film de 1974 qui réunit Philippe Noiret et Jean Rochefort. Michel Descombes mène une vie paisible dans le quartier Saint-Paul à Lyon, la ville de Bertrand Tavernier, où il exerce la profession d'horloger jusqu'au jour où la police vient l'avertir que son fils Bernard, qu'il élève seul depuis le départ de sa femme, est accusé d'avoir tué un vigile de l'usine où travaillait sa petite amie. Et puis soudain, tout bascule pour cet homme qui s'aperçoit brutalement qu'il ne connaît pas vraiment ce fils dont il se croyait proche. Presque 1 million d'entrées en France, et c'est le point de départ de la filmographie de Bertrand Tavernier. Il avait déjà fait deux autres films auparavant, mais qui étaient des films avec d'autres réalisateurs.
Voilà, des films à sketch.
Oui. Allez, troisième extrait de ce blind test.
Balance ces informateurs, c'est formidable, hein, Dodo, hein, hein. Alors, qui c'est qui a balancé le nom de Willy ou de Black, là? Eh, bah, réponds. Mais putain, mais réponds-moi quand je te parle au moins une fois. Mais t'as de la flotte dans la tête, c'est pas possible, hein.
Tu l'as refait cette connerie tous les jours, T'es là en train d'interroger les gars, bah alors disons, petite affaire à nous filer, moi je pourrais vous donner le nom du mec qui vous a balancé, c'est ça, hein, c'est bon ça. Et le résultat c'est quoi? Willis fait tailler la gueule, on perd nos indiques. Et puis soit tu récupères des affaires de merde pour mettre dans des statistiques de merde.
Mais des indiques on en retrouve, ça bah, court les rues.
Mais des indiques comme Willy, oui, qui t'amènent des affaires d'un kilo, un kilo et demi. Oh le petit caillou, c'est... il me fait chier ton cahier. De ton pistolet à eau, ta bombe à merde, tout ça, tu tombes qui là. Oh, excuse-moi, t'es con, mais t'es con. T'es con. On est con. On est nul.
Il parle à son chef. C'est...
C'est L627.
Film de 1992, le film dépeint le quotidien de la brigade des stupéfiants de Paris. Le but affiché de Bertrand Tavernier était de tourner un film réaliste sur les conditions de travail des policiers de terrain. Ça veut dire le manque d'argent, les locaux inadaptés exigus, les tirs au flanc, les abrutis, mais aussi ceux qui tentent de faire leur travail. Et c'était le cas de Didier Bezaz qu'on entend ici.
Et pour info, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Paul Quillès, avait été particulièrement choqué et avait dit que tout était faux dans le film de Tavernier.
Ça a été d'ailleurs co-scénarisé par un policier. 715 000 entrées en France pour ce film. À noter que Didier Bezaz, excellent acteur, est mort en mars 2020. Allez, quatrième extrait.
Le zigoto qui a décidé ça, il a dû faire trois pas dans la bouillasse. Regardez, mon général, ça descend. J'ai fait à peine 2 mètres et j'en ai jusqu'au mollet. Quelle bande de... Tu vois, moi, je viendrais de par là. Planquer le temps qu'il faut, sur des radeaux, des barcasses. Et d'un seul coup, flash. Alors vos mitrailleuses fixes... Elles iront bigorner les grenouilles.
Il a raison. Hein.
Alors, là, tu te mets là et tu te couvres. Seulement, abandon de poste. Tarif?
3 ans de forteresse.
Faites ce que vous voulez, les gars. Un conseil, les mitrailleuses, pas trop fixes.
Capitaine Conan.
Oui, film sorti en 1996 avec Philippe Torreton, qu'on entendait ici. Adaptation du roman homonyme Capitaine Conan de Roger Vercel. L'action du film se déroule pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale sur le front des Balkans. Alors que l'armistice est signé, seule l'armée d'Orient n'est pas démobilisée et reste en état de guerre. Et casernée dans Bucarest, eh bien, les soldats sèment le désordre, pillent et tuent. Norbert a la délicate mission de faire condamner les coupables, les hommes du Capitaine Conan. En nombre d'entrées, c'est 581 000. En nombre de Césars, c'est 2. Meilleur réalisateur pour Bertrand Tavernier. Alors, cette année-là, c'était ex aequo avec Patrice Lecomte. Et oui, pour Ridicule. Et puis sinon, c'est aussi le César du meilleur acteur pour Philippe Torreton. Donc, c'était en 96. Dernier extrait de la première partie de ce blind test consacré à Bertrand Tavernier.
Comment ces ossements ont pu se retrouver pris dans les racines?
C'est sûrement l'ouragan Betsy qui l'a enfoui en 65. Et puis Katrina qui l'a déterré.
Pourquoi 65? Les ouragans, on en a tout le temps par ici.
Vous voyez le tibia gauche?
Il est coupé en deux.
C'est là qu'il a pris une balle quand il a tenté de s'enfuir.
Vous êtes médium ou ce genre de foutaise?
Non, j'ai été témoin de la scène. C'était à 2 kilomètres d'ici.
Vous êtes en train de dire que des blancs auraient lynché quelqu'un dans le coin?
À notre retour, il faudra en parler à votre shérif. Pour qu'il envoie le légiste.
Ah, je sais pas comment c'est dans la paroisse d'Iberia, mais ici... Garantie que personne ne va s'intéresser à une affaire de nègre vieille de 40 ans.
C'est Dans la brume électrique.
Film sorti en 2009, inspiré du roman Dans la brume électrique avec les morts confédérés. Ça, c'est le titre en entier de James Lee Burke, publié en 1993. C'est avec Tommy Lee Jones, dont on entend la voix française, et John Goodman. Nous sommes en Louisiane, un tueur en série s'attaque à de très jeunes femmes. L'inspecteur Dave Robichaud, donc Tommy Lee Jones, est chargé de l'enquête. Il rencontre un acteur réputé qui lui confie avoir découvert des ossements humains dans le bayou. Une découverte qui fait ressurgir les souvenirs du meurtre d'un homme noir assassiné devant les yeux de l'inspecteur. Et c'est ce qu'on entend ici dans cet extrait. 856 000 entrées en France donc pour Dans la brume électrique. Avant de retrouver la deuxième partie du blind test consacré aux réalisateurs français, eh bien Marine va nous parler de la princesse de Montpensier.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
De Madame de Lafayette, autrice du XVIIe siècle, ou plutôt femme de lettres, comme on disait en ce temps-là, on connaît surtout la princesse de Clèves, et beaucoup moins la princesse de Montpensier, une nouvelle parue pour la première fois en 1662 de façon anonyme. Adaptée 350 ans plus tard, en 2010, par Bertrand Tavernier, la princesse de Montpensier est ici incarnée par Mélanie Thierry, fort convaincante dans le rôle de cette jeune fille, convoitée par tant d'hommes et si peu au fait des dangers du monde. Car la princesse de Montpensier, avant de prendre ce nom, n'est que Marie de Mézières, amoureuse depuis toujours du duc de Guise, un ombrageux jeune homme qui aime un peu trop les duels à l'épée. Les deux jeunes gens voient leur espoir d'union s'envoler lorsque lorsque le père de Marie la promet au prince de Montpensier. Car oui, il faut rappeler qu'à cette époque, les femmes n'étaient qu'une monnaie d'échange, que les nuits de noces se déroulaient en présence des parents dans la chambre et que les sentiments étaient, d'une façon générale, un concept assez abstrait.
Épousez Montpensier. C'est une brute comme une autre, qui n'a encore aucune réputation, ni bonne ni mauvaise. Ah, ma fille. L'amour est la chose la plus incommode du monde. Et je remercie le ciel tous les jours qu'il nous ait épargné cet embarras, votre père et moi.
Mais la princesse de Montpensier n'est pas au bout de ses peines. Cette histoire, basée sur des personnages réels, mais sur des situations fictives, se passe en 1562, sous le règne de Charles IX, une époque où les guerres de religion font rage. Sitôt après son mariage, le prince part en guerre, la laissant seule pendant près d'un an, en compagnie d'un précepteur chargé de faire son éducation. Monsieur de Chabannes, qui n'a aucun lien avec l'animateur télé, a décidé de renoncer à la guerre pour se consacrer aux arts, et très vite, il s'attache à la jeune princesse, tout en la préparant à faire son entrée à la cour. Il n'est pas seul à éprouver à son encontre des sentiments amoureux. Le duc de Guise ressurgit dans la vie de Marie, le duc d'Anjou convoite la beauté de la jeune femme et son mari, le prince de Montpensier, est de plus en plus proie à la jalousie. Si les écrits de Madame de Lafayette ont traversé les âges, et pas seulement pour les terminales, c'est que les aventures amoureuses qui y sont dépeintes sont narrées d'une façon tangiblement universelle et intemporelle. On sent, au travers de la mise en scène de Bertrand Tavernier, qu'il n'a pas cherché à recréer une époque lointaine et révolue. Dans la direction des acteurs, leur diction, les cadrages, les mouvements de caméra, rien n'est figé, rien ne semble poussiéreux. La photographie de Bruno de Keyser est à la fois très travaillée et d'un naturel évident, une photographie dont le but est de préserver la texture, la douceur de la peau et les yeux des comédiens. Le but de Bertrand Tavernier était de saisir les sentiments des personnages au travers de cette lumière, une lumière qui met par ailleurs en valeur les costumes créés par Caroline de Vivez et leurs couleurs récompensées d'un César. Par ailleurs, La princesse de Montpensier fut un projet difficile à monter, avec un budget initial de 13 millions d'euros, un projet monté en pleine crise économique qui a failli être abandonné à plusieurs reprises faute de financement avant d'être sauvé par Frédéric Mitterrand. Devant la caméra de Tavernier autour de La princesse de Montpensier, on retrouve Gaspard Ulliel, Lambert Wilson, Grégoire le prince Ringuet et Raphaël Personnaz, dont la carrière au cinéma a véritablement démarré suite au film, alors qu'il comptait à ce moment-là, renoncer à être comédien. Et lorsque l'on a demandé à Tavernier, au moment de la sortie du film, comment il avait réalisé La princesse de Montpensier, eh bien le cinéaste, qui avait alors 68 ans et pour qui c'était le 27e film, répondait « Comme un premier film, depuis L627, j'essaye de faire à chaque fois un premier film. »
La princesse de Montpensier est évidemment disponible en VOD et DVD. Deuxième partie maintenant du blind test.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
La règle du jeu, elle est simple. 5 extraits, 5 titres à trouver. Premier extrait.
Ça lui faisait beaucoup de peine de te voir que je tâtonnais encore à mon âge. Je venais d'avoir la rosette. Notre situation était faite.
Ça lui faisait de la peine.
En imitant d'ailleurs l'originalité des autres, je veux dire ceux que je comprenais. Monet, Caillebotte, Renoir. J'aurais été encore moins original. J'aurais perdu ma petite musique.
Alors ça n'a pas été trouvé tout de suite, mais trouvé quand même, Manu.
Oui, c'est un dimanche à la campagne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il avait l'accent de Michel Galabru au début.
Non, ce n'était pas lui.
Voilà.
Donc film sorti en 1984, adapté d'un roman de Pierre Bost, Monsieur l'Admiral va bientôt mourir. Alors nous sommes un dimanche de la fin de l'été 1912. Un vieux peintre au crépuscule de sa vie accueille ses enfants dans sa maison de campagne. Alors il y a le sérieux de son fils qui contraste fortement avec l'anticonformisme de sa fille, interprétée par Sabine Azéma, et c'est une personne pleine de vie qui remet en question les choix artistiques de son père, et là il était en train de se justifier. César de la meilleure actrice pour Sabine Azéma, César de la meilleure photographie pour Bruno de Keyser, et puis César du meilleur scénario d'adaptation pour Tavernier, et prix de la mise en scène au Festival de Cannes 84, et puis allez, on termine par 1 million d'entrées en France. Deuxième extrait.
On se croirait encore en guerre.
C'est que vous ne l'avez vu que d'assez loin. La guerre est pire. Tellement pire. Des centaines d'hectares avec des centaines de cadavres qui noircissent. Plus un arbre. Des trous pleins d'eau d'où sortent un pied, une tête couverte de mouches. Ça pue. Des rats courent par bandes. Mais nous n'arrêtons pas de nous taire. Qui nous écouterait d'ailleurs? Qui nous imprimerait? Les journaux n'en ont que pour le mensonge et le crétinisme galonné. La guerre, avec ses allures dévastatrices, n'a que l'apparence de la destruction. Je l'ai lu, ça. Signé cher fils général. 1 500 000 morts n'ont que l'apparence de la mort. Salaud.
Et c'est La vie et rien d'autre de 89.
Oui, trouvé. L'action se déroule juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Deux jeunes femmes d'origine sociale très différente poursuivent le même but, retrouver l'homme qu'elles aiment qui a disparu pendant le conflit. Et le commandant de la Plane doit les aider. Le commandant de la Plane, c'est Philippe Noiret qui a remporté le César du meilleur acteur pour ce rôle. Et la meilleure musique est revenue à Oswald d'Andrea. À noter que Philippe Noiret, c'est bon de le rappeler parce que ça ne fait pas la première fois qu'on l'entend dans ce blind test, il a tourné 9 films avec Bertrand Tavernier. Voilà, c'est, je pense, l'acteur qui a tourné le plus avec Bertrand Tavernier. 1,5 million d'entrées en France pour La vie et rien d'autre. Ce film-là a fait beaucoup moins d'entrées.
Clouseau rechigne sur les dialogues de Le Chanoine. Il les voudrait plus percutants, c'est son mot. Je vous laisse leur version, vous êtes juge.
Bien, monsieur, je verrai ça cette nuit. Et monsieur Tourneur, pour la fin, l'explication de la main, comment elle a traversé les âges avec les différents possesseurs du talisman, il faudrait simplifier. Le chronomètre, je dépasse. Ou alors, il faudrait demander une rallonge d'un jour, peut-être deux.
Nous avons dit 28 jours. 28. S'il y a une rallonge, monsieur Devers, ce sera une rallonge d'environ 1000 kilomètres. Nous vous enverrons à Babelsberg étudier les méthodes allemandes de production.
C'est trouvé ?
Et c'est Laissé passer, son oui. film sur le monde du cinéma à travers la résistance.
Tout à fait, film de 2002 avec Jacques Gamblin, Denis Podalydès en 1942. Nous sommes à Paris sous l'occupation allemande et deux hommes voient leur destin se croiser et s'entremêler. Alors d'un côté, il y a un assistant metteur en scène qu'on vient d'entendre, Gamblin, qui trouve le moyen de camoufler ses activités clandestines de résistant en travaillant pour la Continentale, donc la firme cinématographique allemande. Et puis de l'autre, eh bien, un scénariste poète qui refuse de travailler pour les Allemands et s'engage par la plume dans une lutte héroïque contre l'envahisseur nazi. Alors 367 000 entrées en France, c'est beaucoup moins que tous les autres films qu'on a écoutés dans ces blind tests. Allez, 9e extrait de ce blind test consacré à Bertrand Tavernier.
Elle vous faisait donc bien peur, les femmes, quand elles n'étaient pas mortes.
Qu'est-ce que j'y peux? Quand le céleri est bien disposé, faut appliquer sa loi.
Quelle loi? Il n'y a pas de loi, Bouvier, il n'y a qu'une loi. C'est de réfréner ses instincts quand ils sont mauvais.
Vos paroles sont bien belles, mais celles de la nature causent souvent plus haut, coûte que coûte. Allez, j'en goûte.
Mais nous en avons tous des tentations. Nous y résistons. Sinon, que deviendrait la société?
Mais je me fous de votre société. Moi, je relève de Dieu. J'ai fait œuvre de justice. C'est la France qui est coupable. Il y a trop d'inégalités, de misère. Je suis ou un grand sauveur, ou un grand martyr fin de siècle, ou un grand élu du ciel.
C'est le juge et l'assassin.
Oui, film de 1976 avec Michel Galabru et encore Philippe Noiret. De toute façon, il fait partie de la trilogie de films L'horloger de Saint-Paul, Le juge et l'assassin et Que la fête commence. L'histoire est inspirée de la vie du tueur en série Joseph Vacher. À la fin du 19e siècle, il est suspecté d'avoir tué au moins une vingtaine de personnes. Et comme quoi, c'est plutôt bien finalement d'être acteur chez Tavernier, parce que là, c'est encore un César du meilleur acteur, donc cette fois-ci pour Michel Galabru. Et puis encore un meilleur scénario original ou adaptation pour Bertrand Tavernier et son complice Jean Oranche. 913 000 entrées en France. Dernier extrait de ce blind test.
Mais comment ça, l'ancienne première? Mais je croyais que c'était toi, Caillou, qui devais la réécrire.
Non, moi je fais la conclusion de la troisième partie.
Non, ça, faut le garder, parce que si tu coupes ça, après tu peux pas enchaîner.
Attendez, là, je trouve deux fois le même paragraphe, là et là.
Deux fois seulement, t'as de la chance.
Il y a un débile qui a collé Ramon et l'abricot dans le passage sur les religions de Sdéménie.
Alors, ça a été trouvé, évidemment, Guillaume.
C'est Quai d'Orsay ?
Oui, film de 2013 avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz et Niels Arestrup, adapté de Quai d'Orsay, la bande dessinée du même nom de Christophe Blain et Abel Lanzac. Celle-ci portait sur l'activité de Dominique de Villepin, alors à la tête de la diplomatie française. On y suit un jeune conseiller chargé de langage pour le ministre qui aura fort à faire. César 2014, eh bien, c'est celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Niels Arestrup et c'est 887 000 entrées en France. Voilà ce blind test qui avait le mérite de faire bien un petit raccourci sur la filmographie de Bertrand Tavernier est maintenant terminé.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Eh bien, si personne ne meurt la semaine prochaine, nous ne bouleverserons pas le sommaire que nous avons choisi, et c'est donc...
The Addiction d'Abel Ferrara.
Et pour moi, ce sera Jeanne d'Arc de Gustave Husicki.
Et on choisira un blind test. À la semaine prochaine.